Merci de nous donner la parole, de nous avoir donné l'occasion d'écouter Daniel tout de suite, parce que nous allons illustrer d'une certaine façon, enfin par un petit bout, certaines des questions que Daniel pose, a posé en tout cas. Et nous remercions l'INRP, bien sûr, de nous donner l'occasion de ces rencontres et de ces questionnements croisés. Alors, nous allons commencer par quelques remarques et, ou constats hein, sur les répertoires langagiers. Ce sont des sortes d'affirmations qui cadrent finalement notre réflexion et notre travail sur le terrain, puisqu'il s'agit essentiellement de travail sur le terrain. D'abord, les langues ne sont pas des systèmes clos, isolés et sans rapport les uns avec les autres. Ça se passe peut-être de commentaires, mais on pourra en faire un petit peu plus tard. Ce qu'on appelle classiquement une langue, par exemple le français, est en fait un ensemble de systèmes en interaction. Chacun de ces systèmes, ou de ces variétés justement, est le fruit d'une histoire, reflète une géographie, sous-tend des activités de différents milieux sociaux, professionnels, idéologiques. Par exemple, bon, si on peut prendre une variété quelconque de français, le français du Nord, si on veut, il porte traces, donc, des traces lexicales, des traces phonologiques de l'histoire du français de la région, de cette région. D'autres variétés de français, autre exemple, dans des régions frontalières, bien évidemment, affichent d'autres variations, d'autres formes, et donc une variation. Et on pourrait multiplier en fait les exemples de microsystèmes propres à des professions, à des secteurs économiques, etc. Alors, ça c'est une réflexion qui concerne la légitimité de parler de la langue française, la langue allemande, la langue espagnole, etc. Mais on s'interroge aussi sur la légitimité de parler, on s'interroge surtout sur la construction, en fait, d'un répertoire plurilingue. Ce qui se passe, c'est que on en arrive à penser, enfin on le sait déjà, que les compétences langagières pragmatiques et stratégiques qui sont en jeu dans la communication dans une langue donnée sont mobilisables, transférables dans des situations de communication dans une autre langue. La question de ces compétences transversales est une question importante, effectivement, par rapport à la réflexion sur le plurilinguisme, mais on y reviendra. Un locuteur, justement, qui maîtrise déjà une ou deux langues, et on le dit beaucoup actuellement, n'aura pas besoin, lors d'un nouvel apprentissage, de réapprendre que certains mots des langues humaines ou certaines façons de dire des langues humaines ont la particularité de changer de sens, justement, en fonction de la situation de communication, du locuteur, etc. Il y a donc des transversalités. Et enfin, pour ouvrir des locuteurs à la diversité, altérité linguistique, il nous semble qu'il y a quelque chose de fondamental, et donc qui nous amène à dire que de la capacité à reconnaître la diversité, la capacité de l'école, justement, venons-en à l'école, à reconnaître la diversité du français et sa variation, dépend sa capacité à former des locuteurs plurilingues. Et là, effectivement, nous rejoignons d'une certaine façon des choses dites par des affirmations de Daniel, mais aussi toute cette réflexion, justement, dont il est question autour du Conseil de l'Europe. Alors, donc, pour ouvrir des locuteurs à la diversité, à l'altérité, hein, il faut bien les amener à percevoir, développer une conscience de cette diversité. On vient à la conscience de la diversité de ce qu'ils croient être unique, monolithique, stable, c'est-à-dire la langue française, par exemple. Alors, il y a eu des programmes, il y a encore de nombreux programmes qui circulent et qui nous intéressent particulièrement dans cette perspective. Des programmes, alors très très rapidement, un petit rappel, des programmes comme Awareness of Language, comme l'intercompréhension entre langues parentes, des programmes qui ont continué à se développer autour de la variation, de la comparaison des systèmes linguistiques, comme Evlang par exemple, ou des programmes qui cherchent à intégrer maintenant les langues vernaculaires des élèves d'origine migrante ou autre. Donc tout ça, intégration dans des curriculums de l'école. Et effectivement, les études qui se sont penchées sur ces programmes montrent des résultats positifs. Amherst, par exemple, fait état des résultats tout à fait positifs en recensant plusieurs expérimentations d'ailleurs, des résultats tout à fait positifs auprès d'élèves qui ont suivi des programmes de ce type et d'élèves migrants et de leur insertion dans des curricula. Alors, donc ce qu'on constate là, c'est que, au mieux, les élèves, quand même, dans ces programmes, voient une amélioration de leurs résultats scolaires. Donc, c'est ce que dit Amherst. Au pire, le temps pris sur les disciplines fondamentales à l'école, donc, pour cette ouverture, n'a pas d'effet négatif sur le niveau scolaire. Mais on constate avec ces premiers programmes de premières difficultés, puisque de plus en plus on retrouve ces programmes sur des terrains où ils sont auscultés, observés et où on en tire un peu des conclusions. Alors, première difficulté, c'est-à-dire que malgré ces quelques résultats encourageants, encore une fois, et des réactions favorables, dans le cadre donc de formation initiale, continue, on constate qu'il y a une certaine difficulté pour ces programmes à s'installer durablement dans les classes. Peut-être qu'on pourra en discuter, mais donc ce qui nous intéresse, nous, dans ce nouveau programme de recherche que nous démarrons, c'est pour quelles raisons finalement ? Pour quelles raisons y a-t-il une espèce de stabilisation, stagnation après quelques moments d'enthousiasme ? Nous faisons et les enseignants font quelques hypothèses. On peut évoquer l'insécurité, par exemple, des enseignants par rapport aux compétences requises pour mener à bien, poursuivre ces programmes. On évoque aussi un doute par rapport, les enseignants eux-mêmes, un doute par rapport à la capacité à intégrer ces activités, au programme. Et puis aussi, ça c'est plus ordinaire comme hypothèse, un retour aux routines, aux échéances officielles, ce n'est pas, nous n'épuisons pas la liste, la concurrence par exemple que représente par rapport à ce type de démarche, la pression autour de l'enseignement bilingue par exemple, les classes bilingues, les classes sur le modèle Émile, la DNL, etc. Donc en tout cas, il y a là quelque chose qui interroge d'une certaine façon. Alors, notre positionnement consiste à poursuivre la recherche. Ça justifie bien évidemment une poursuite de la réflexion. Pour dépasser justement ces difficultés que je viens d'évoquer. Alors, notre recherche, elle, se se centre sur, justement, l'ouverture à la diversité linguistique dans les classes multiculturelles et multilingues. Nous avons commencé il y a un certain temps, déjà toutes les deux, dans les années, à partir des années 2000, quoi, grossièrement, dans des classes primaires, à travailler dans des classes primaires de type clean et CLA, très répandu à l'époque, et aussi dans des classes plus ordinaires intégrant des ENA, c'est-à-dire des enfants nouvellement arrivés. Maintenant, bien sûr, ce que nous faisons s'inscrit dans le cadre d'un large projet de recherche que nous avons appelé pluriel, financé par la région des Pays de Loire. Ce projet est centré sur le développement en contexte scolaire de compétences plurilingues. Et à travers ce projet, nous postulons un lien entre, d'une part, les attitudes et pratiques face à la variation dans la langue et le développement de compétences plurilingues, de la compétence plurilingue. Alors, la démarche de recherche que nous avons choisie, d'explorer au moins, ne vise pas à évaluer ou élaborer de nouveaux outils pour les enseignants. Plutôt, nous cherchons à comprendre les représentations et les pratiques des acteurs de la classe vis-à-vis des langues et du français en particulier. Et du français en particulier, je répète. Cette démarche, donc de type ascendant, plutôt que descendant, s'intéresse donc aux attitudes et représentations, je le disais tout à l'heure, des enseignants, mais aussi des enfants, vis-à-vis de la diversité des répertoires, alors des enseignants d'abord, vis-à-vis de la diversité des répertoires langagiers des élèves. Elle s'intéresse aussi aux ressources et pratiques qu'ils mettent plus ou moins spontanément en œuvre pour la prendre en compte, cette variation. Alors, le terrain, en ce qui nous concerne, et donc le contexte de la recherche, ce sont les classes en zone d'éducation prioritaire. Tout à l'heure, Marilyn Coquidet disait « le terrain aide à problématiser ». En fait, nous disons que c'est à partir du terrain que les questions problématiques sont soulevées. Et c'est dans cette perspective, effectivement, que nous travaillons. Donc, nous travaillons dans ces classes où la diversité langagière existe, en tout cas potentiellement, dans les répertoires d'une grande partie, un tiers des classes en moyenne, un tiers des élèves des classes que nous fréquentons, donc les répertoires d'une partie des enfants et de leur entourage familial proche. Alors, ce que nous allons vous montrer maintenant, ça va être un aperçu, quelques aperçus de premiers, on ne peut pas parler de résultats, mais de premières photographies et réflexions sur ce que nous avons, sur les classes que nous avons fréquentées. Donc notre méthodologie, comme vous allez le constater, est de type plutôt ethnographique et qualitatif, avec donc une immersion dans les classes. Observation avec observation des pratiques ordinaires, quotidiennes, sous forme de prise de notes et aussi d'enregistrement de cet oral qui circule. Et puis, donc, ensuite, des entretiens avec les élèves, par petits groupes, bien entendu, de 3 ou 4, ou à la limite 5, avec les maîtres. Puis, observation et enregistrement de pratiques réflexives et pratiques de pratiques réflexives avec les enseignants sur la mise en œuvre des outils pour aborder la diversité, Et puis autour d'outils proposés éventuellement par eux-mêmes ou par d'autres. Et donc, ceci s'étendra aussi, cette réflexion s'étendra aussi à d'autres relais. Ça ne se limitera pas. Alors, nous avons aussi, en parlant de relais, nous avons aussi le relais de conseillers pédagogiques qui nous ont aussi, qui s'intéressent à ces questions-là. Et ces relais sont aussi parfois hors de l'institution. Alors, je m'arrêterai là pour cette liste. Nous avons, à la fin, en quatrième étape, finalement, de nouveaux entretiens seront mis en place. Et, ce que je ne disais pas, c'est que nous allons vous parler de ce que nous avons fait jusqu'à maintenant et des classes que nous avons fréquentées majoritairement. Ce sont des classes de maternelle, de ZEP, de maternelle moyenne section et grande section.
C'est un choix qu'on a
jusqu'à
fait.
Maintenant.
On travaille sur des classes de maternelle et de primaire. On a choisi de ne présenter que les classes de maternelle pour
Ce qui n'empêche qu'effectivement, nous sommes aussi au niveau, dans les classes de l'élémentaire et que nous travaillons sur ces questions-là aussi, sur ces corpus-là aussi. L'équipe, en tout cas, qui est très proche de ce terrain des classes maternelles et aussi élémentaires, est composée d'un certain nombre de personnes relevant des équipes d'Angers et du Mans. Nous avons une jeune collègue, Isabelle Audras, qui a beaucoup travaillé au recueil de données. Françoise Leclerc, qui est ici présente et qui fait qui crée des liens sur le terrain, encore plus que nous, entre ces différents groupes et classes. Livia Goletto, qui est en train de faire sa thèse sur ces questions-là aussi, mais plus en dehors de la ville, dans des classes qui sont en dehors de la ville. Et Michel Candelier, qui est transversal en la matière de beaucoup de choses et qui aussi suit tout ça.
Isabelle Limani.
Alors, maintenant... vous avez rendez-vous avec le terrain.
Alors, enfin, en fonction suivant... Oui, pardon.
Je te passe la parole.
Je la prends. Suivant les classes, on en est soit au stade, entre guillemets, 1 et 2, bon, qui en fait sont concomitants. Et puis, dans certaines classes, on est parti depuis 2 mois sur l'étape 3, c'est-à-dire que les enseignantes sont en train de mettre en œuvre... plus que 2 mois dans certaines classes primaires, mais bon. Les enseignantes mettent en œuvre des outils volontaristes qui sont orientés vers un travail sur la diversité linguistique. Mais on va vous parler essentiellement du 1 et du 2 parce que 2-3 mois, on n'a pas de recul de recherche suffisante pour en parler. On pourrait en parler de manière informelle sur les premières choses qu'on voit, mais pas de manière très structurée. Alors, donc, les premiers données dont on veut vous rendre compte, ce sont des données qui ont été recueillies en entretien avec des enfants. Donc, on a conduit 16 entretiens avec Isabelle Audras, Marité et moi-même, avec des enfants de moyenne et de grande section, avec différentes questions sur lesquelles on reviendra après. Mais la première question visait à essayer d'évaluer la place que les enfants accordent au langage quand ils parlent des apprentissages à l'école. On avait 2 questions qui étaient une question large et puis après une question de relance qui était: qu'est-ce que vous apprenez à l'école, tout simplement, et puis la relance, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes soit sur le tapis, soit dans le coin regroupement, enfin suivant le vocabulaire que les enseignantes ont l'habitude d'utiliser avec eux, mais pour essayer de les centrer un peu plus sur les questions de langage. Bon, en fait, la relance, on l'a toujours faite, mais elle était à peine nécessaire parce que, comme vous allez le voir, le langage, c'est la première chose qui est évoquée par les enfants quand on leur demande ce qu'ils apprennent à l'école. Alors, pas le langage tel quel, je vous rassure. Alors, on a traité ces données. Alors, le traitement quantitatif de ces données, ça pose énormément de difficultés, comme toujours quand on veut faire du quantitatif. Et il est certainement provisoire. Enfin, si vous revoyez ces données-là dans quelques temps, ça m'étonnerait pas que les nombres et les chiffres un peu changé parce que quand on veut faire rentrer les réponses des enfants dans des cases, c'est pas très facile. Mais enfin, en faisant un premier découpage, on est arrivé à 127 unités informationnelle donnée, c'est-à-dire par exemple, ben, on apprend à écrire, c'est une unité informationnelle, on apprend à faire des boucles, c'est une autre unité informationnelle, et on les a donc codées pour les ranger dans des catégories de types d'apprentissage évoqués. Donc le premier constat, c'est qu'il y a une prépondérance importante de réponses qui sont en référence avec les activités, aux activités d'écriture et de lecture. Alors c'est massif. On le voit comment ? On le voit d'une part d'un point de vue chronologique, c'est-à-dire que c'est la première, les premiers apprentissages qui sont cités tournent autour de l'écrit. Dans 7 entretiens sur 16, c'est la première activité qui est citée, et dans 5 entretiens sur 16, c'est la deuxième activité qui est citée. C'est aussi une référence, quantitativement, c'est aussi la première type d'apprentissage qui est cité. Donc quand on prend les 127 unités, on en a 37 qui sont en référence à l'écrit, et on pourrait en rajouter 5 qui sont ambiguës entre l'écrit et l'oral, mais qui ont donc pourraient être attachées à l'écrit. Et puis alors un autre aspect, c'est la très grande diversité, la très grande précision du métalangage des enfants quand ils parlent de ces apprentissages. C'est-à-dire qu'on a tout un tas de vocabulaire qui arrive, abécédaire, alphabet, spirale, boucle, puis c'est pas une fois, hein, c'est, enfin bon, abécédaire, oui, c'est une fois, mais alphabet, spirale, boucle, attachée, script, capital, cursive, ils ont une maîtrise. Alors, après, dans les activités de classe, on voit que c'est pas forcément complètement maîtrisé, mais enfin, ils ont du métalangage, et puis il y a quelques références de type « on écrit calmement, on apprend à bien écrire ». Alors, il y a quand même aussi référence à des activités liées à l'oral, mais c'est beaucoup plus modeste et plus flou. Alors, les activités liées à l'oral, donc 18 références, 18 occurrences, c'est essentiellement la maîtresse qui est agent des énoncés. Donc, la maîtresse explique, la maîtresse lit, etc. Et puis, sinon, dans les 8 autres cas, c'est un « on ». Bon, qui les met quand même en scène, mais on voit que l'oral ne fait pas vraiment l'objet d'une mise à distance réflexive comme c'est le cas pour l'écrit. On peut faire différentes hypothèses. La première, c'est que l'écrit, du fait qu'il nécessite des outils, peut-être plus facile à repérer comme objet d'apprentissage. Bon, il y a d'autres éléments qui ont déjà été traités dans toutes les réflexions sur l'oral, mais qui sont liés au fait que il y a une distance immédiate de l'écrit pour les enfants, alors que l'oral est plutôt incorporé ou familier. Et puis, on a une association étroite de l'institution scolaire à l'écrit, comme l'a montré notamment l'AIR, et donc ça semble être intégré par les enfants. Mais on fait une quatrième hypothèse qui n'est pas exclusive des précédentes et qui serait liée, alors là les données on les a pas suffisamment explorées pour être très assertives, hein, mais qui serait liée à la manière dont les enseignantes catégorisent et introduisent les activités liées à l'oral. Alors dans tout ce qui est activité liée à l'écrit, on sent que le message de ESCOL est très bien passé, c'est-à-dire que les maîtresses, elles sont excellentes dans la manière dont elles orientent les enfants pour qu'ils sachent quelles sont les activités cognitives en jeu. Et ils savent très bien ce qu'ils font au moment où ils le font. Quand on arrive face aux activités d'oral, c'est moins le cas, mais en même temps, c'est certainement plus difficile de le faire. Alors, on le montre à travers ici, par exemple, une activité de langage du 14 janvier chez Maëlle. Qui est une activité, alors je précise bien, c'est vraiment une activité d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on a eu un temps d'accueil, comme ça se fait en maternelle, pendant une demi-heure, les enfants ont fait des ateliers, ont été accueillis individuellement par la maîtresse, ensuite ils se sont regroupés, on a fait les rituels de la date, de la cantine, et puis on ouvre l'activité de langage. Et la manière dont elle est introduite, alors comme on a plein de choses à raconter, comme hier on n'avait pas école, on va raconter ce qu'on a fait hier. Mais il faut bien écouter. Bon, mais voilà, qu'est-ce qui justifie cette activité ? On est vraiment dans une activité de type communicative, affective, et on n'a pas une explicitation des activités cognitives qui seront en jeu. Et puis la fin de l'activité, c'est pareil. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas parlé voudrait quand même parler ? On n'a oublié personne, et puis cette tour de parole plus loin, quand c'est les derniers qui avaient encore envie de dire quelque chose, bon, on parlait, on arrive à tout le monde à parler, c'est bon. Donc on voit bien qu'on n'est pas dans un enjeu de est-ce que les objectifs sont atteints, est-ce que vous avez tous compris ? C'est voilà, est-ce que vous avez tous dit ce que vous aviez à dire ? Alors, cela dit, dans ces activités, loin de nous l'idée de dire qu'il ne se passe rien en termes d'apprentissage, parce qu'au contraire, il se passe plein de choses. Mais simplement, les enfants sont pas tellement capables d'en parler quand on leur demande, mais dans le cours de l'activité, il y a un travail. Alors là, on a interrogé ces données avec un double regard, c'est-à-dire qu'il y a d'une part un travail sur la norme et d'autre part un travail sur la variation. Un travail sur la norme classique, là, enfin, vous n'allez pas être étonnés des données, hein, mais qui consiste pour l'enseignante, et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les enfants... dès décembre, hein, où on a commencé à faire les premiers enregistrements, ont parfaitement intégré cet enjeu puisqu'ils font beaucoup d'autocorrection sans intervention de l'enseignante. Il y a un travail de resserrement sur une norme qui évoque une norme plutôt de l'écrit. Donc là, on a pris deux exemples qui sont en fait qui nous intéressaient parce que c'était, et on va le voir en troisième après, autour de j'ai parti, je suis parti. Donc problème récurrent dans les données. Et donc on voit ici comment l'enseignante recentre sur une norme unique. Donc ici, tout simplement en substituant à l'énoncé de l'enfant, un autre énoncé correctif, bon, avec une efficacité relative, hein, puisque on voit que l'élève, juste après avoir fait une autocorrection en répétant la correction de la maîtresse, refait immédiatement la même erreur. Du coup, la maîtresse réitère, hein, j'ai parti, je suis parti, puis on recommence, de nouveau j'ai parti, donc la maîtresse recommence sa correction, je suis parti. Alors en janvier, on a une autre stratégie, une autre manière de ramener vers la norme, qui consiste à interroger l'énoncé de l'élève, en l'excluant de la norme. Est-ce qu'on dit ? Bon, évidemment qu'on le dit, puisqu'elle vient de le dire. Mais non, en fait, on le dit pas. Et on a, dans d'autres données qu'on a, qui sont pas de cette classe, de ces classes-là, on avait d'autres manières de ramener vers une norme unique qui étaient des commentaires du type, est-ce que c'est un mot de la classe, ça ? Alors, est-ce que c'est un mot de la classe qui, quand même, reconnaît implicitement une autre norme ? En la tenant à distance, mais qui n'est pas tout à fait la même chose que de dire est-ce qu'on peut dire ça, ou on aurait vraiment l'existence plus que d'une seule norme. Alors à côté de ce travail de resserrement sur une norme unique, on a un travail très riche sur la variation. Alors ces trois extraits nous ont intéressés. On en a qui viennent à l'initiative de l'enseignante, mais là ces extraits nous intéressaient parce que c'est un travail qui est fait à l'initiative des élèves. Alors on voit bien qu'ils ont intégré une pratique là. Donc on a un petit récit de Flavie qui explique qu'elle a fait ceci et puis après cela et puis après cela et puis après cela. Et donc la maîtresse la remercie. On entend le bâton de pluie qui signifie qu'on va passer à un autre enfant, à l'initiative des enfants. Quand ils ont fini, ils font marcher le bâton de pluie. Et là, y a une élève qui dit, et aussi, on peut dire ensuite, parce que tout c'est après quand même, c'était pas super. Donc, un autre extrait qui nous, dans la même séquence de langage, quelques tours de parole plus loin, un enfant qui a raconté, bon, il est dormir, une correction normative qui relèverait plutôt de la diapo précédente, qui est il dormait. Et puis, une élève qui dit, il est parti se coucher, on peut dire aussi. Plutôt que il est dormir. Et puis enfin, la troisième, alors là, c'est encore peut-être plus frappant parce que c'est le discours de la maîtresse qui est reformulé pour être enrichi. Et donc là, c'est une autre activité, hein, autour d'album. Les élèves ont dit dedans, la maîtresse a reformulé, c'est dans le livre. Et là, il y en a une élève qui détache très bien chaque syllabe en disant à l'intérieur. Voilà, on peut dire autrement encore. Tu reprends le relais,
hein, vas-y. Oui, parce que tu peux reprendre ton souffle. Oui, 5 minutes. Nous avons aussi interrogé la diversité des répertoires linguistiques. 10 entretiens seulement ont été traités parce que, comme Violaine le disait tout de suite, nous avons fait ce que nous avons pu, mais nous en sommes là. Alors, dans le cadre des entretiens, ce qu'on constate, c'est que les enfants sont assez démunis pour dénommer les langues. Et parfois même le français. On entend peu le mot, le français. Quelle langue? Alors la question c'était, quelle langue tu parles? Quelle langue vous parlez? Et il faut effectivement insister, hein, pour leur demander, vous connaissez des gens? Vous connaissez des gens qui parlent le français ou qui parlent d'autres langues? Etc. Bon, on va avancer un petit peu parce que on les oriente aussi vers les copains de la classe, bien sûr. Les copains, ils parlent d'autres langues, etc. Alors, donc, ce qu'on constate, c'est que les enfants, donc, d'une part, sont assez démunis pour dénommer les langues, mais qu'il y a aussi, quand on les interroge sur les langues qui les environnent, qu'ils entendent autour d'eux, hein, c'est une relative surdité finalement au plurilinguisme environnant. À part quand c'est dans leur propre famille, alors tout d'un coup un enfant nous raconte ma mère parle ceci, mon père parle cela, avec mon grand frère je parle ça, etc. Mais c'est quand même plutôt exceptionnel.
On était frappé que plusieurs enfants nous disent non quand on leur demandait est-ce que vous avez des. Ils ne nous parlaient pas de plurilinguisme autour d'eux, on a resserré sur la classe puisqu'on savait qu'il y avait des enfants et que les mamans viennent chercher. Vous avez dans votre classe, vous avez des enfants, des copains qui parlent d'autres langues? Non. Puis alors des noms catégoriques tranquilles.
Quelques-uns.
Oui, il faut pas que je ne généralise.
Alors, il y a aussi une sorte de fantasme qui apparaît, enfin ce que nous avons appelé un fantasme, moi peut-être particulièrement, qui se manifeste donc puisque certains enfants déclarent spontanément, hein, sans questionnement orienté, que papa et maman parlent anglais, alors qu'il est prouvé et avéré que par ailleurs les parents sont français et parlent français, etc.
C'est autre chose.
Donc là, est-ce vraiment un fantasme? Je crois qu'il y a, on voit bien d'où ça vient, parce qu'on leur parle, on commence à leur parler, à leur dire des mots d'anglais. On leur dit on va apprendre l'anglais bientôt. Il y a un professeur de musique qui est britannique et qui introduit des mots d'anglais et leur fait répéter, etc. Bon. Alors, et puis dernière chose qui nous a frappé, l'une des questions par rapport à l'une des questions posées, c'est que pratiquement. La question, c'était, est-ce que vous avez envie d'apprendre d'autres langues ? Pratiquement aucun ne souhaite. La réponse est non, et quelquefois massivement, non, tout le groupe ne souhaite apprendre une autre langue à l'école. Alors, en poussant un petit peu, la raison invoquée, c'est, papa, il comprendrait pas, je peux pas parler, maman, elle parle pas une autre langue, bon, voilà. Mais c'est vraiment assez pauvre et intéressant. Par là même. Alors, donc, si on veut faire une conclusion rapide. Premier résultat, donc, d'analyse des entretiens d'élèves de maternelle. Les constats sont les suivants. Donc, une relative maîtrise du métalangage technique pour parler de l'écrit. Une faible conscience des apprentissages en jeu dans les activités d'oral et de la diversité des langues. Une attitude... ouverte à certaines variations de la langue orale, mais c'est effectivement le point sur lequel nous insistons beaucoup, parce que nous pensons que cette attitude ouverte à la variation, que cette pratique de la variation, que cette pratique souvent spontanée de la variation, est un tremplin pour ouvrir plus largement à la diversité linguistique, pour passer de la variation à la variabilité et à la diversité linguistique, et donc réduire finalement cette surdité au plurilinguisme environnant. Voilà.